L'émission s'appelle The Post Non-Radio Show. Et ce soir, eh bien, comme d'habitude, on cause de tout et rien. Des articles sérieux, de journaux sérieux, et puis des conversations de comptoir. Sauf qu'on n'a rien à voir, quoi.
Exact.
Cette émission est devenue drôlement sage.
Oh là, oui.
Ah, moi, maintenant, une cigarette et un peu de fatigue, ça me suffit. Je suis... Allez, on passe encore à un autre... Alors, j'ai acheté récemment ce disque. C'est un album d'un groupe australien qui s'appelle My Disco. Alors, il ne faut pas se fier au nom du groupe. Ça... C'est pas vraiment du disco, on va dire.
Pas du disco, hein, d'accord. Oui.
C'est un très très bel album, il date de 2020. Il y a une face avec un très long morceau qu'on s'écoutera tout à l'heure. Et une autre face avec quatre autres morceaux. Je trouve le son fabuleux, l'ambiance complètement incroyable. On s'écoute déjà deux premiers morceaux qui vont très très bien ensemble. The Post Non-Radio Show, Radio Libertaire.
La suite au prochain.
Est-ce que nous allons encore entendre parler de Bruno Le Maire, ça rime.
Ce que je voulais dire à propos de ce titre, je me suis un peu moqué de notre ministre des Finances qui vantait le modèle français. Non pas que j'apprécie pas le modèle français, je suis content qu'il ait été réussi, mais je suis pas content quand on traite pas les Allemands d'une façon correcte, parce qu'on a besoin de s'entendre avec eux, disons, et on voit que c'est pas toujours très facile, donc c'est pas la peine de mettre de l'humour par-dessus.
Surtout quand il est mauvais. Hein.
Ceci dit, j'ai un autre truc.
Yves, je te l'ai dit tout à l'heure, en dehors de l'antenne, je t'ai dit, Henrik, il a raison peut-être de pure causer de Le Maire là, parce que on entendra parler, il va se présenter lui, hein, attention. Hein,
c'est un... ils sont déjà beaucoup à vouloir se présenter.
Oui, déjà. Donc c'est à l'ASCAR, hein, donc il va pas être.
La file d'attente commence à grossir.
Voilà, c'est ça.
Il y a Edouard Philippe qui a eu le droit à deux pages dans Le Monde.
Il y a Gérald Darmanin.
Ça fait beaucoup de monde. Est tout à fait raisonnable et intéressant. C'est dommage que c'est pas plus pour la transparence, comme j'avais vu dans Le Canard la semaine dernière. Non, là j'ai un truc sur les gosses. Ça s'appelle Tout bien pesé. Je ne sais pas de qui est l'article, mais c'est Conflit du Canard.
Alors, j'aurai un truc à te dire aussi après.
Oui. Après ?
Oui, vas-y.
Alors, c'est le 11 décembre 2007, les 11 plus grosses multinationales de l'agroalimentaire signaient en grande pompe avec la Commission européenne un accord par lequel elles s'engageaient à ne plus cibler les moins de 13 ans à la télévision, dans la presse écrite et sur le web.
Le web.
Les géants de la malbouffe n'allaient plus bourrer le mou des enfants avec des pubs pour leur faire avaler des produits trop gras, trop salés, trop sucrés. Donc, belle initiative pour tenter de freiner l'épidémie d'obésité infantile. Et donc, on est 16 ans plus tard et on découvre que l'industrie de la malbouffe s'est assise sur ces jolies promesses. Ça rime avec fesses, mais c'est pas la même chose. Une méticuleuse enquête de l'association Food Watch vient de montrer que Coca-Cola, Ferrero et consorts ont plus que jamais continué de vanter leur Kaamelott auprès des gamins en utilisant les réseaux sociaux, Internet, les jeux vidéo, à coup de stratégies savamment concoctées, partenariats avec les influenceurs, placement de produits ou jeux vidéo promouvant une marque. Malin, vu que 40% des enfants utilisent une tablette et plus de 80% des ados un smartphone. Et comme de bien entendu, aucun des signataires de la charte n'a pris la peine d'améliorer le profil nutritionnel de ces sodas, barres chocolatées ou biscuits. Sur les 228 boissons et aliments destinés aux jeunes consommateurs que Foodwatch a décortiqués, seulement 10 sont dans les clous selon les critères de l'Organisation Mondiale de la Santé. D'aucuns vont dire c'est quoi ce business, mais bon. Chez Nestlé, numéro 1 mondial de l'alimentation avec près de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, c'est 100% des produits qui sont dans le rouge. Idem pour Coca-Cola, Ferrero, Kellogg's, Lindt, Mars, Mondelez, PepsiCo, Unilever. Bilan des courses. L'obésité infantile flambe. Rien qu'en France, 17% des 6-17 ans sont en surpoids, dont 4% sont obèses. En 2010, l'OMS avait tiré la sonnette d'alarme en recommandant d'interdire pour les moins de 18 ans les pubs faisant la retape de produits au profil nutritionnel douteux. Afin de repousser à la cinglinglin toute velléité réglementaire, les industriels ont multiplié les chartes d'engagement qui les engagent à Kepwick. Elles sont désormais 23 firmes, totalisant 80% des dépenses publicitaires du secteur alimentaire, à avoir signé l'accord avec Bruxelles. La Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui a sur sa table un projet de loi pour lutter contre l'obésité, va avoir du grain à moudre avec le rapport de Foodwatch, à moins que l'agroalimentaire ne pèse sur les débats. Voilà, c'est donc un article dans Le Canard de cette semaine, c'est-à-dire daté du mercredi dernier, quoi. Mercredi 13 septembre, en bas de la page 5. Et ce conflit de canard, c'est jamais signé, donc je ne sais pas qui fait ça.
Ah oui, okay. Pardon, j'avais un truc à dire.
Oui.
Alors, la semaine dernière, j'ai fait une blague d'un goût atroce. J'ai eu une réflexion d'un goût très, très douteux. Quand on parlait de gosses, puisque j'habite à côté d'une école, j'ai dit donc que j'en peux plus.
Oui, parce que
les récréations sont épouvantables. T'as l'impression qu'on égorge les animaux juste à côté. Ça pousse des hurlements stridents à longueur de journée de récréation, puisque vu que là, contrairement à certains endroits où il fait chaud, où les gosses sont calfeutrés, là où je vis, on les fout dehors. Et on s'en fout qu'ils attrapent une insolation, quoi que ce soit, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, les maîtres et tous les maîtresses, etc., doivent s'en foutre complètement. Et qu'est-ce que je lis ? Que ne lis-je pas à mon réveil le samedi ? Un type, alors j'espère qu'il m'a pas écouté, ça avait dû se passer bien avant. Et ben il a rien trouvé de mieux, alors ça se passe dans une ville de banlieue, là, pas loin. Je sais plus laquelle, Champs-sur-Marne. Non, là, elle est rose, je crois. Non, je ne sais plus. Il n'a rien trouvé de mieux que de tirer à la carabine à plomb.
Oh, le con.
Sur des gamins, parce qu'il vit en étage à côté d'une école. Alors, il les a un peu touchés, mais ça, il sait rien. Ils n'ont pas été blessés gravement, ni rien du tout. C'est des petits plombs, enfin bref, c'était plus de peur qu'autre chose. Sauf que 3-4 jours après, ou une semaine après, en gros une semaine là, ça fait même pas, il y a hier ou avant-hier, re-article sur ce type. Alors, je sais pas si l'histoire date et les journaux ont un peu tardé à la relater, mais ça a été extrêmement vite. Le type a été repéré, apparemment il était bourré quand c'était un type tout à fait discret, etc. Et apparemment, il était bourré quand il a tiré sur les mômes. Alors, je rappelle la carabine à plomb. Alors, je minimise pas. Hein.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sinon, il les aurait pas ratés, c'est ça ?
Non, mais il les a pas ratés, il les a touchés.
Ah,
sauf que le mec.
Sinon, il aurait pris une calache ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Dans
la période où, enfin, où on est plutôt.
Non, mais j'ai dit qu'il
était. On va être consternation en consternation.
Non, mais arrête, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, ne me fais pas passer pour ce que je suis pas.
Ah non, mais je dis pas que c'est toi, là, c'est moi qui fais le mot.
Le mec était bourré. Bon, bref, il était sous, ça lui a pris. L'énervement l'a pris. Bon, bref, il a super agacé. Et je vous invite tous à aller vivre près d'une école. Vous allez voir qu'au bout de 3 jours, vous pétez les plombs, mais ça ne m'excuse pas non plus. C'est juste que je veux dire que moi, je sais qu'on peut être très, très agacé, très énervé. Parce qu'on ne peut pas ouvrir ses fenêtres. C'est absolument inhabitable comme secteur, comme environnement, comme voisinage. Enfin, bref, j'ai l'impression que je l'excuse, mais je ne l'excuse pas. Donc, quelques jours à peine après, je disais donc que l'histoire doit dater un peu, elle a été relatée peut-être un peu en retard. Voilà le résultat, il a été donc identifié, arrêté, et apparemment, il est déjà passé en comparution immédiate. Alors, t'as des affaires où la justice traîne pendant des milliards d'années, et là, le type a déjà sa sanction, 3 ans de prison avec interdiction de revenir dans la ville, d'habiter là où il habitait. Enfin, le mec, il s'est pris une sanction absolument phénoménale. En gros, il a 58 ans, il va sortir de prison à 61. Il doit déménager et ne plus réapparaître dans la ville pendant 5 ans. Alors, je ne vous dis pas les contraintes. Enfin, c'est énorme ce qui lui arrive, quoi.
Ça me semble simple.
Oui, mais enfin...
C'est un jugement, de toute façon, donc c'est réglé.
Il faut qu'il déménage, il faut qu'il s'occupe de retourner au moins pour prévoir son déménagement. Enfin, la vie de ce type est complètement chamboulée, je trouve ça complètement disproportionné.
Moi, pas du tout.
S'il te plaît, c'est disproportionné. Non, et en plus, la sanction tombe, mais alors, 3 jours après, tu dis bravo la justice. Alors, il y a des fois, je te dis, ça dure des milliards d'années, et là, en 3 jours, c'est plié. Le mec, il a sa sentence. Bon, bref...
Non, mais là, c'est simple à juger.
C'était juste que je voulais dire.
Ce qui est compliqué, c'est les affaires comme celle d'un ancien chef d'État français, ou parce qu'il faut établir des faits.
Attendez, je ne veux pas qu'on m'accuse.
Personne ne t'accuse.
D'abonder dans le sens du type. Hein, Je veux dire, c'est...
Mais, bon, moi, le jugement, d'abord qu'on l'éloigne...
Mais non, c'est juste que je relate l'affaire, que je trouve ça très rapide.
Qu'on le force à s'éloigner de l'école, je trouve ça normal. Ensuite,
moi, en même temps, c'est pour lui, quoi. Comme ça, il serait tranquille s'il vit ailleurs.
Non, mais déjà, il va vivre... C'est pas sur ce ton-là qu'on lui dit.
Il va vivre en prison.
Il peut essayer de le prendre comme ça, c'est ce que je lui souhaite, mais c'est pas comme ça qu'on lui dit.
Non, mais c'était juste pour relater que j'avais fait cette blague archi-douteuse.
Ouais.
J'en reconnais. Mais bon, il faut comprendre mon agacement. Excusez-moi, j'ai été quand même gravement malade. Je me retrouve cet été avec des travaux dans l'immeuble. Des travaux, mais alors ils ont complètement... refait des apparts, ils ont fait un bruit monstrueux dès 8h30 du matin. Pendant 2 mois et demi, ça a été un enfer véritable. Plus le centre aéré à côté, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Donc, excuse-moi, à un moment donné, le taux d'énervement, mais moi, j'ai pas de carabine. Hein.
Ben, c'est voilà. Plus simple. Tiens, j'ai été surpris en rentrant dans un musée.
Donc, c'était juste, voilà, j'ai trouvé que la concordance, la coïncidence, la concordance de la blague et de l'histoire de ce type avec les écoles, etc., j'ai trouvé ça étrange, voilà. Mais évidemment, je ne trouve pas... Bon, il a pris 3 ans de prison, je trouve ça. Il ne les a pas tués, bon, enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus.
Il aurait fallu qu'il les tue ?
Mais non, pas du tout.
Pour justifier une peine de prison ?
Non, mais pas du tout. Mais je trouve ça ultra rapide, quoi. En une semaine, c'était bouclé. Il y a des affaires beaucoup plus graves que ça. Ça traîne, c'est à la peine pendant
des siècles. Il peut faire appel, c'est suspensif. Il peut aller en cassation ensuite.
Non, mais j'arrête là parce qu'on va croire que j'abonde dans l'action de ce type, alors que c'est absolument pas vrai. Moi, j'ai rien fait du tout. Je l'aurais même pas lancé des œufs par-dessus le mur.
Pourtant, il te lance des ballons.
Oh bah, ils font plus que ça, enfin, c'est bref. Ils lancent des ballons, enfin, bon,
moi, j'ai été surpris qu'en visitant un musée...
Le problème, c'est que je ne peux pas déménager, il n'y a pas d'appartement à louer.
Oui, ça, il y a une crise.
Donc, excusez-moi, mais si je radote sur cette putain d'école à côté d'un...
Oui, mais enfin, je m'excuse, cher ami.
Et je n'ai même pas les moyens d'avoir... Enfin, bref, c'est un peu...
C'est ce que j'allais dire, je m'excuse, cher ami, mais la crise, elle n'est que pour les pauvres. Parce que les riches,
sûr,
ils ont
évidemment
de quoi acheter. Alors débrouille-toi pour être riche. Et puis
il y a un oligarque.
De nous embêter sur Radio Libertaire. Il faut avoir de l'argent, quoi. Mais d'où tu sors ?
Voilà, c'est ça la crise. Les crises, ce n'est jamais que... Enfin, à part quelques fois où certaines crises hautement financières touchent l'élite, le résultant, toutes les crises, c'est vraiment pour les pauvres, quoi. C'est pour vraiment les gens d'en bas.
Bah, les pauvres sont là pour ça.
Donc, en effet, parce que...
Écoute, un fric de dingue, dit le chef de l'État. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Ils servent à ça.
La famille Bongo qui s'achète des dizaines d'immeubles dans Paris, ou des oligarques russes qui s'achètent encore de l'immobilier à Paris en ce moment même.
Oh, bah, t'es jaloux.
Évidemment que je suis jaloux. Comment je pourrais déménager en haut d'un hôtel particulier entouré d'un immense parc? Qu'est-ce que je serais tranquille. Je vais te dire un truc, c'est que je le pense vraiment. Putain, qu'est-ce que je serais tranquille en haut de mon château, disons. Non, mais sérieusement, les pauvres, ils ont droit à toute la merde, quoi.
C'est un entretien, quand même, un château. Hein.
Mais non, je
Ou alors, faut organiser les visites. Moi, j'étais surpris à propos de ça, en visitant un musée, à l'entrée, qu'on me fasse ouvrir mon sac. Bon, très bien.
Quand j'étais plus jeune. Ah oui, quand on a été à Port-Louis.
Quand j'étais plus jeune, seul un officier de police judiciaire pouvait faire ouvrir un sac. Policier, un gardien de la paix, n'avait pas le droit de le faire. Il fallait que ce soit, je crois qu'il soit officier. Hein. C'est des catégories A, donc, pour être précis. Là, j'ai été surpris, on m'a demandé d'ouvrir mon sac et surtout on m'a posé la question, est-ce que vous avez un couteau ?
Oui, exactement.
Quelle est belle la question. Évidemment, non, j'ai pas de couteau, madame, monsieur.
C'était une dame.
Oui, c'était une dame. Peut-être qu'elle elle se reconnaît très sûrement pas parce qu'elle doit poser la question à chaque personne, à moins que j'ai une gueule de truand actuellement. Mais ça serait bien la seule à le penser. En tout cas, elle ne me l'avait jamais dit jusqu'à mon personnage.
Jusqu'à présent, quoi.
Jusqu'à présent. Et donc, ça, c'est une grosse surprise quand même. Qu'on me demande si j'ai un couteau pour rentrer dans un musée.
Non, mais on ne va pas me demander si j'ai une carabine, quoi.
Ça, elle ne m'a pas demandé si j'avais un revolver. Ça, c'est peut-être une erreur. Enfin bon, ça montre, parce qu'en plus c'est dans un petit bled touristique avec très peu de touristes.
Non, ça va, il y avait du monde.
Bon.
Bref.
You've loved are dead, and you're walking around with ghosts in your head as much as living with the people who are alive. And I realized at a certain point that I was talking every day to the dead as much as I was to the living.
Do you have a voice like mine?
Libertaire 89.4 de Poste Non-Radio Show. Un petit mot. Je vous mets vos micros, même si vous ne le méritez pas. Je plaisante. Ouais. Un petit mot sur ce qu'on vient d'écouter. C'est un maxi 45 tours. Le groupe, enfin l'entité artistique s'appelle SMPL. SMPL. Le morceau, il y en a deux, un par face. Ils s'appellent tous les deux Time Lapse. Et ce disque, ce maxi, vient avec un mini magazine dont c'est le numéro 1. C'est un mini magazine anglais qui s'appelle Embryo, comme embryon. Alors, c'est un mini magazine dans le format avec une couverture glacée. Papier glacé, et à l'intérieur, ça rappelle les fanzines des années 80, un peu comme ça, des photos en noir et blanc, des dessins photocopiés, des textes écrits à la machine à écrire. Ça a vraiment cet aspect-là, fanzine années 80 plutôt, de musique industrielle et noise, et enfin ce genre musical. Ce style musical-là, donc ça s'intéresse à la musique, mais aussi à la photo et à plusieurs autres concepts, le dessin. Il y a au sommaire de ce numéro 1 des gens comme Bacon Grease, Bo Wanzer, Breathing Problems Production, Kill Jill, Jake Young Sim, Adam Esther, Hieroglyph Bing, Fumu, NN December et Morgan Roth. C'est paru fin 2022. C'est sous-titré Voice of a Failed Species. Je suppose que ça veut dire voix des espèces failli ou en voie de disparition. Il y a également plein de photos d'embryons. Je vous ferai passer le petit magazine si vous voulez. Enfin, des photos, ouais, des photos, des dessins d'embryons que je suppose être humains. Il y a des dessins. Admester, par exemple, c'est un dessinateur indonésien. Il y a. Donc, Marian Roth, par exemple, qui est le projet musical d'une musicienne qui s'appelle Lucie Gazarian Topchian. C'est une Serbe qui vit désormais à Moscou et qui, je l'avais lu, c'était parti dans le nord, plutôt sibérien, pour enregistrer. Je retrouve un peu, je relis un peu entre les lignes vite fait. Je sais plus si c'est vraiment ça. Enfin, il est question, voilà, de froid extrême et etc. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Il y a un photographe sud-coréen et d'autres projets bien dark, bien indus, voilà. C'est vraiment un côté très underground, comme ça peut exister encore en fait. Finalement, c'est pas complètement mort. Cet esprit n'est pas complètement mort. Donc c'est le numéro. On écoutera là. L'autre face, qui s'appelle aussi elle Time Lapse, Embryo Magazine, donc c'est le numéro 1, ça ne m'a pas coûté extrêmement cher, c'est vendu sur des plateformes comme Boomcat, et quoi dire d'autre, bon rien, c'est très, moi j'aime bien, alors, ce qui est bien, c'est carrément que ça vient avec un maxi vinyle et un poster. Le poster. Alors, le poster fait plutôt science-fiction, plutôt noir, hein, plutôt dark. Hein. Il y a une créature bizarre sur. Voilà.
Ah oui, c'est grand quand même. Oui.
Voilà, il y a un poster, un maxi vinyle et le petit magazine.
Oh, dis donc, ouais.
Voilà, très bel objet, très chouette. Avec plein d'underground dedans. J'ai lu en quelques extraits en diagonale également. Voilà, moi j'aime beaucoup ce projet. J'espère qu'un autre reparaîtra avec le maxi. Je trouve l'idée vraiment très très sympa. Et quoi dire d'autre que c'est la 55e parution du label Natural Science Records. On va reprendre. C'est pas la bonne vitesse. Thank you. Radio Libertaire, Radio Libertaire de Poste, non Radio Show. Show. À l'instant, le groupe, le duo, à l'instant, je ne sais pas si on m'a entendu dire Radio Libertaire de Poste, non Radio Show, les oiseaux, mes oiseaux en volière étaient un peu trop. Bavard. À l'instant, le duo Duarte, Manuela et Antonio, ce sont un frère et un sœur dans les états portugais à la fin des années 80, début 90. Ils décident de prendre l'air et de voyager et vont dans une ancienne colonie portugaise à Macao et écrivent ce titre de disco psychédélique qui s'appelle Taipei. Voilà, et qui est ressorti en 2017. Moi, j'aime beaucoup. C'est exotique et je l'ai acheté pour ça, justement. Parce que je trouve ça exotique. Alors, en scrollant là sur le fil info de Google, je tombe sur un article de d'Acrimed, de l'association, je crois que c'est de l'association Acrimed qui s'emploie à décrypter les médias, etc. Je ne sais pas si vous la connaissez, les gars.
J'ai entendu parler.
Alors, c'est un vrai bonheur. C'est un article écrit par Pauline Pernaud. Ça vient de paraître là. Aujourd'hui, vendredi 15 septembre 2023. Et ça commence comme ça, c'est le chapeau, je ne vais pas tout lire. Je vous invite à vous y reporter, c'est en gratuit, vous pouvez le lire, il n'est pas tronqué pour les abonnés. J'en ai lu une partie, c'est un vrai plaisir. Mercredi 6 septembre, Yann Barthès de l'émission Quotidien, l'insupportable émission Quotidien, ne boudait pas son plaisir en accueillant, ouvrez les guillemets, la Dream Team de la première matinale de France. Donc l'équipe de rêve. Hein. Alors on a certainement pas les mêmes rêves, eux et nous. Léa Salamé, Sonia De Villiers et Nicolas Demorand. Si ces gens vous font rêver, je ne sais pas à quoi vous carburez, mais bon, pour moi, vous n'êtes pas normaux. Une émission de pur faire valoir dans la grande tradition des ouvrez les guillemets, rentrée médiatique. Évidemment, il faut qu'ils te rappellent qu'ils sont là, ces gens. Hein. En ah, cas oui. On oublierait qu'ils existent.
Ah oui, oui.
Alors ici ou là, à travers les interviews radio et les portraits de ouvrez les guillemets de personnalités de France Inter en presse écrite, très peu d'informations en vue en fait. Sous les projecteurs, le petit monde des médias parisiens soigne ses hiérarchies, cultive son entre-soi et se donne en spectacle. Et moi, je rajoute, comme d'habitude, hein, les habitués de la boursouflure gothique. Mais je vais quand même me faire plaisir. Allez. Comment s'appelle cette chère Pauline Pernaud m'excusera, mais c'est un vrai délice et je ne résiste pas à l'envie de vous lire quelques. C'est tellement croustillant. C'est exactement le genre de papier que j'aime. Que des journalistes se pavanent chez d'autres journalistes est loin d'être une nouveauté. Merci à Crimed au passage. Il en va même d'une routine dans un paysage médiatique ivre de lui-même, starifié, carriériste, où chaque média se comporte comme une entreprise en quête de parts de marché et chaque vedette, ouvrez les guillemets, de l'information comme une marque de vente et d'autopromotion. Alors je rappelle qu'on avait fait une des émissions sur la radio, on avait tenu à peu près le même genre de discours, hein, entreprise, machin. Bref, Loin de faire exception à la règle, le service public s'adonne au marketing. Ouvrez les guillemets, people avec délice. Le pôle commercial de Radio France n'a jamais lésiné sur les moyens pour donner à voir sa station phare, France Inter. Les visages des animateurs trônent sur les réclames géantes, en pleine rue ou dans le métro. Alors là, oui, leurs faces de partout. Hein, grignotent les espaces publicitaires des grands quotidiens et flottent sur la façade de la Maison Ronde. Comme je l'avais dit déjà plusieurs reprises, on se croirait en Corée du Nord. Comme à la télé, la radio, ouvrez les guillemets, fabrique ses gueules. Et ils en sont sûrs, les gueules font vendre, surtout si les copains mettent la main à la pâte. Enfin, je sais pas qui achète, mais bon, il y a des gogos vraiment pour se le faire attraper. M, le magazine du monde que Yves adore, par exemple, je sais, tu ne l'achètes pas, tu n'aimes pas ce magazine.
Ça dépend. Je suis tombé récemment sur un article de M qui m'a fait changer d'avis, au moins sur cet article, qui était génial.
Alors écoutez, je suis désolé pour Madame Perronneau, mais j'adore son article. Je ne vais pas m'en empêcher, c'est exactement ce que je pense. Donc M, le magazine du monde, par exemple, qui a tenu à tresser les lauriers d'Adèle Van Driet, c'est la nouvelle directrice de France Inter, hein, début septembre. Une patronne qui, ouvrez les guillemets, fait entendre sa différence à France Inter et surtout suscite la courtisanerie du journal de référence. 7 pages durant, insignifiance et dépolitisation raflent la mise. Si la communauté des journalistes aura sans doute décelé quelque intérêt aux, ouvrez les guillemets, révélations de la proximité d'Adèle Van Driet avec le courant du printemps républicain, scoop. Ces dernières ne pèsent rien face à l'avalanche des mièvreries journalistiques ordinaires. Le physique de l'intéressé, son, ouvrez les guillemets, contact facile, ses cocktails qu'elle prépare à l'arrache, mon Dieu la bourgeoise. L'enjeu n'est pas d'informer, mais de fabriquer des personnalités et de construire des notoriétés. Il faudra leur dire un de ces jours à tous ces gens que... Je ne sais pas, il n'y a pas grand monde qui a envie d'acheter Madame Van Driet. Hein. Idem du côté de Télérama, article du 30 août, qui s'entretenait avec Nicolas Demorand. Oh, je déteste Nicolas Demorand. Qui, quelques jours plus tôt, un homme, ouvrait les guillemets, au cœur de la machine médiatique, qui ouvrait les guillemets de nouveau, cultive sa discrétion. D'où les 6 pages d'ouverture de Télérama. Mais on le verra également, un prime time chez l'autre gogol de Yann Barthès. Oh. Dès l'introduction, le projet semble d'ailleurs fort modeste, à l'image de l'interviewé. Après un été à lire un livre par jour, des vacances à New York, et avant de prendre les commandes d'une matinale élargie, il a longuement reçu Télérama. Plus de 3 heures durant, le normalien formé aux journalistes à France Culture a pesé chacun de ses mots. Parce que s'il passe chacun de ces mots, laissant s'installer des silences, tirant frénétiquement sur sa cigarette électronique pour livrer ses visions d'un paysage médiatique et d'une France morcelée. De ces 3 heures, entre guillemets, on retiendra surtout un long fleuve de questions tranquilles. Vous êtes rare en interview. Pourquoi ? Vous êtes aussi en retrait des réseaux sociaux. Avez-vous du mal avec notre époque ? À quoi a ressemblé votre enfance ? Qu'imaginez-vous devenir ? Cas de différent Demorand de 2023 par rapport à celui de 2002 ? Oh. Quel avenir voyez-vous après la matinale ? Vivre aux États-Unis pour lequel vous avez une passion ? Point d'interrogation. Et last but not least... Nicolas est fait de failles au travers duquel passent La Lumière confiait Léa Salamé aux Un Rock en 2017. Vous reconnaissez-vous dans cette analyse ? La bouillie people est telle qu'on ne peut prendre au sérieux les quelques questions politiques qui figurent à l'agenda concernant le remaniement de la grille de France Inter, la ligne de la station, la place de la satire politique ou encore de l'empire de Vincent Bolloré, a fortiori quand la contradiction est inexistante, laissant toute latitude à De Morant pour aligner les formules convenues, sans oublier de brosser sa direction, l'ancienne et l'actuelle, dans le sens du poil. L'ADN de France Inter n'a pas changé. Elle est accueillante. Tout pour tous, comme disait notre ancienne patronne Laurence Bloch. À ce stade, on croyait le répertoire épuisé, le répertoire people épuisé. C'était sans compter sur RTL, qui a mis la barre encore plus haut. Reçu dans l'émission On refait la télé, le 11 septembre, Léa Salamé put à son tour valser dans l'autopromo et vanter les succès et les charmes de son talk show. Quelle époque, c'est sur France 2. Dans lequel officie l'humoriste phare de RTL, Philippe Cavrivière. C'est donc tout naturellement que le journaliste de RTL, Éric Dussard, demanda de ses nouvelles. Je me suis toujours demandé, il vous dit quoi Philippe Cavrivière pendant le générique, avant de s'enquérir du sort d'un autre de ses confrères, présentateur des grosses têtes, est-ce que vous seriez OK pour recevoir Laurent Ruquier pour sa nouvelle émission sur BFM TV, Nombrilisme au carré, et l'on ne croit pas si bien dire. Éric Dussard demande, Léa Salamé, vous allez maintenant devoir répondre aux questions de Léa Salamé, une interview par vous-même. Oh, Léa Salamé,
c'est pas vrai.
En toute modestie, je vais donc m'auto-répondre, c'est ça l'idée. L'animatrice Jade, eh oui, on a bossé. On a sélectionné des questions que vous avez posées dans l'émission, à votre tour d'y répondre. Voici la première. Il y a des coups qui sont interdits ou tous les coups sont permis ? Point d'interrogation. Passez cette petite forfanterie. Je suis désolé, c'est long.
Non, mais
c'est tellement croustillant.
Oh là là.
Et cette journaliste le décrit tellement bien que c'est... Moi, je dois avouer que c'est du Coca-Cola avec de la sang qui me coule dans le gosier. Franchement, là, passez cette petite forfanterie, la radio généraliste ne craint pas d'avancer, ouvrez les guillemets, des dossiers compromettants sur Léa Salamé, parmi lesquels son talent méconnu pour la chanson et une drôle d'obsession avec son fils Gabriel, ni de s'attaquer aux problèmes de fond, comme en témoigne le sommaire de l'émission, Florilège. Son petit rituel avant l'antenne, Léa Salamé, Catherine Deneuve, je crois qu'elle m'en veut un peu. Aimerait-elle présenter un JT ? Comment réagit son fils de 6 ans quand il la voit à la télé ? Le jour où elle a été en direct sans le savoir, Léa Salamé à propos de la presse People. Oh, ça a foutu un, on l'air ma vie personnelle. Tandis que sur Quotidien, là c'était des petites phrases qui se lançaient sur RTL, voilà, dans cette fameuse émission. Des petites questions, voilà, dans le portrait, et des questions-réponses faites à elle-même. Sur Quotidien, les journalistes sont à la cool. Si les portraits de presse et interviews radio veillaient ainsi à entretenir le cours du star système médiatique, les prouesses du petit écran en la matière semblent indépassables. Quotidien, TM6, 6 septembre. Questionné sur les charmes du narcissisme, entre guillemets, De Morant affirme que ce truc a dû être réglé, tandis que Léa Salamé confie être en voie de guérison. Les bouffons, ça c'est moi qui le rajoute, hein. À l'évidence, il reste encore pas mal de marge. Car l'invitation des trois stars, entre guillemets, de la matinale de France Inter, Sonia De Villiers fait désormais partie du trio et d'abord l'occasion d'une séquence d'autocritique inoubliable. On est perfectionniste, juge sévèrement de Morand, avant de, poursuivre. Ouvrez les guillemets, c'est lui qui parle. Je continue à ne pas dormir. Tant que ça ne sera parfait, je ne dormirai pas. Mais on corrige tous les jours, tous les jours, tous les jours. Barthès demande. Sérieux, vous dormez pas? Nicolas lui répond. Non, je ne dors pas, non. Non, je ne dors pas. Je ne dors pas. Voilà, je ne dors pas. Tant que ça ne sera pas parfait, je ne dormirai pas. Mazette, comment il tient? Bah, avec de la coque. Non, c'est moi qui rajoute ça.
Bien sûr. Oui.
Léa Salamé renchérit. On n'est jamais content de nous. On sort de la matinale et tout de suite on voit les défauts et on les liste. Ça va pas. Il n'y a jamais un moment où on se pose en disant « Bon bah quand même, ça allait, oh comme on les comprend !» Et la petite bourgeoisie de s'adonner à la légèreté de l'infotainment. Yann Barthès demande « On fait l'exercice, un mot sur chacun, on commence, Léa sur Nicolas. » J'ai dit « bouleversant, je crois. » Nicolas sur Léa. Il a dit « puissante. » Léa sur Sonia. « Intense. » Sonia sur Nicolas. The King, référence musicale. Nicolas sur Sonia, profonde. Sonia sur Léa, le parrain. Compatir au quotidien de ses bosseurs acharnés. Rire avec ses plaisantins d'un soir, parce que d'ordinaire, il se couche tôt. Tel est le programme de quotidien qui parviendrait presque à nous faire oublier que les convives du jour dominent l'une des fenêtres les plus puissantes du système médiatique au lieu de la fabrique du consentement à l'ordre établi. Allez, encore un tout petit peu, c'est un peu long, mais bon, finissons ce délicieux article. Dépolitisation de la politique. Comme toujours chez Barthès, les questions politiques reviennent bien par la fenêtre, ou plutôt par le petit bout de la lorgnette, et passer au tamis du divertissement. Elle donne lieu à de savoureux numéros de clown. Par exemple, Léa Salamé dit « Je défie quiconque de dire si moi, je suis de gauche ou de droite. Si Dominique je ne sais pas qui c'est, il est de gauche ou de droite. » L'idéologie donc dominante en pleine démonstration d'elle-même. Initialement, cette séquence avait pourtant un intérêt. Évoquer les critiques qui visent la radio publique. Mais très vite, on comprend que pour la rédaction de quotidien, les critiques en question se résument aux éructations de l'extrême droite. Visiblement seules légitimes à être discutées. Avec hauteur d'esprit, le plateau s'indigne donc à la lecture des gros titres. De Causeur, du Figaro Magazine, étrillant le service public et hausse les sourcils en entendant Éric Zemmour vitupérer contre la propagande immigrationniste, woke et décoloniale, de France Inter lors d'un meeting. Mais une nouvelle fois, il ne se trouve évidemment personne pour noter qu'en février 2022, le leader de Reconquête déroulait mot pour mot le même discours dans les studios de France Inter, sans que les deux matinaliers ne lui portent la moindre contradiction. Ce qui leur valut en prime les félicitations de la médiatrice des antennes. Personne non plus pour relever que France Inter fut épinglée par l'Arcom à l'occasion de la dernière campagne présidentielle pour avoir surexposé Éric Zemmour. Toujours personne pour discuter sérieusement du rôle de France Inter et de l'ensemble des médias dominants dans la banalisation de l'extrême droite. Et encore moins pour remémorer à Léa Salamé ses faits d'armes en la matière, elle qui n'eut de cesse de légitimer les obsessions de ce courant jusqu'à la théorie du grand remplacement devant plusieurs millions de téléspectateurs. L'intéressé ne s'y trompe d'ailleurs qu'à moitié, qui revendiquait encore récemment sa complicité avec le propagandiste en chef de Bolloré. Ouvrez les guillemets, le spectacle de Pascal Praud m'amuse. Oui, ça m'arrive de zapper sur ces news, spécialement sur Pascal Praud. Une séquence politique, entre guillemets, sous la forme d'un filet de la forme de filet d'eau tiède, donc, que vient clôturer, comme il se doit, Sonia De Villiers, en bonne analyste des médias. Elle dit donc, Sonia, il y a beaucoup de critiques qui viennent de la gauche et de l'extrême gauche. C'est ça qui est extrêmement intéressant quand on travaille à Inter. C'est-à-dire que la gauche nous tape régulièrement dessus, en nous qualifiant de chien-chien de la Macronie, ou de libéraux, etc. Mais je veux dire, combien de fois la Macronie, la droite, l'extrême droite, nous ont qualifiés de gauchos indécrottables. En d'autres termes, non seulement toutes les critiques se valent, mais si elles viennent des deux côtés, ça prouve bien que quelque part, elles s'annulent. L'ineptie du discours ne l'empêche malheureusement pas d'être dominant. Il est super long cet article. Ouh là là ! Waouh ! Attendez, je regarde. Ouh là 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 là. Il est très long. Bon, bref. Du reste, je le finis ou pas ?
Oh oui, je pense. Oui, moi je...
Allez, c'est la dernière ligne. Enfin, la dernière. Du reste, les édictocrates du service public n'aiment rien tant que revêtir. On va dire que je m'agis à part le boulot d'Agrimet, pas du tout. C'est simplement que je trouve cet article absolument fabuleux. Bon, bah, ça m'embête de lire en entier. Reportez-vous à l'article. Donc, c'est sur le site d'Agrimet. Il y en a encore un tout petit peu.
Il est en train de m'essayer de m'empêcher de parler du modèle français. Allez, vas-y.
Et donc, ça finit... Non, bah, voilà, je le finis pas, il est encore très long. Je voudrais pas non plus vous ôter le plaisir de le relire et à t'être posé, enfin, et de vous en faire une idée, de le finir. Bon bah c'est ce qu'on dit souvent ici, surtout moi qui ai une vilaine dent contre
Rance Inter,
contre Rance Inter, contre tous ces gens alors qui ne cachent même pas leur boursouflure d'ego,
ah oui,
qui se répandent absolument partout, qui se pensent absolument les meilleurs. Qui contrôle, enfin l'info leur arrive, les dépêches leur arrivent. Tous ces médias sont à peu près peu ou prou les seuls à les avoir sous la main et à les maîtriser. Donc se donne, si encore en toute modestie, et souvent ils le disent, mais est-ce que c'est réel, vraiment vraiment vrai, qu'il nous le donne à l'entendre pour que nous nous fassions notre propre idée, que nous aiguisions notre réflexion à la connaissance, à la prise de connaissance de ces dites informations, mais n'empêche qu'on ne peut ne pas penser qu'il y a quand même, comme dit l'article, des hiérarchies, et moi je pense qu'il y a une hiérarchie, c'est-à-dire de ceux qui manipulent et détiennent l'information à ceux qui, sur ceux qui, à qui elle est destinée, c'est-à-dire nous. Nous tous d'ailleurs. Donc, voilà. Pour ma part, j'ai une confiance extrêmement modérée, pour ne pas dire limitée, dans les médias. Je ne les apprécie pas, ces gens-là par exemple, je ne les écoute pas. J'écoute un peu France Info quand je me lève, parce que c'est une très très vieille habitude que j'ai depuis que je suis adolescent. J'ai toujours aimé écouter la radio, ça me fait chier de plus l'écouter, parce que je trouve plus grand chose à écouter en fait. Tout m'emmerde, pas grand chose me plaît. Merci à cette journaliste donc. Que je retrouve son,
oui.
Son nom.
Oui, pour ce travail-là.
Pauline Perrenot.
Perrenot.
Et donc pas, et non pas Perrenot, Père, P-E-R-R-E-N-O-T. C'est juste un article qui vient de paraître sur le site d'Acrimed avec le titre France Inter en promo, le showbiz de l'information. Voilà, c'est ça que je leur reproche. C'est un showbiz, c'est de l'inflation, de la boursouflure d'ego, comme j'ai déjà dit. C'est du spectacle, et ces gens-là, voilà, on les vend. On nous les vend, et je suis désolé, s'il y a des gogos qui marchent, c'est ça un peu le problème, quoi. Voilà, on est bien dans la fabrique du consentement, et moi je ne consens pas. Et j'ai pas envie d'être consentant à tout leur cirque en fait. Donc voilà, t'es heureusement que tu lis pas Télérama, Yves.
Il y a certains articles dont le fond est repris dans d'autres journaux qui peuvent être intéressants, mais c'est vrai que je lis pas. Moi, j'ai un article intéressant sur la réussite française, la famille Pinault, mais quand j'aurai le temps.
On va faire une petite pause parce que c'était un peu long quand même. Thank you. Je me suis laissé distraire. Le disque. Le morceau, c'est fini. Je me suis laissé distraire par l'article. La fin de l'article d'Acrimed. Oui, donc, tu disais...
J'ai un article qui m'a amusé. Je ne sais pas si ça vous amusera.
Oui, cette semaine, je dois noter qu'il y a eu aussi un article qui est passé sur les aides à la presse qui dit que c'est les grands groupes, en fait... qui en bénéficie le plus. Hein. Ben ça, ça n'étonnera personne.
Évidemment, oui.
Yves, je te laisse la parole.
Ce qui est le plus drôle, en plus, dans ces aides à la presse, c'est que se retrouvent dans des réunions au ministère de la Culture, les grands groupes comme Le Monde, Le Figaro, puis Marine Le Pen, et puis des feuilles de choux, etc. Bon, enfin bref, c'est un maringot. C'est un... excusez-moi, c'est un marigot.
Un marigot.
Un marigot. Excuse-moi si tu m'entends. La famille Pinault s'offre une puissante agence d'artistes californienne. C'est ça le titre. Alors, Artemis, la holding familiale, va prendre le contrôle de Creative Artist Agency. C'est Le Monde du 9 septembre 2023. Donc, ils ont annoncé le 7 septembre un accord pour prendre le contrôle de l'agence, dont je viens de citer le nom, à Hollywood, qui porte sur l'acquisition de la participation détenue par le fonds d'investissement TPG en achat avec effet de levier depuis 13 ans. Les holdings sont dont les actifs atteignent plus de 40 milliards d'euros, selon le communiqué, signent ainsi une diversification étonnante. La famille Pinault est connue pour être l'actionnaire de contrôle du groupe Kering, propriétaire des marques de luxe Gucci, en déconfiture en ce moment, Saint Laurent et Balenciaga. Elle contient 42% de son capital. Elle est l'actionnaire de Puma, la marque allemande d'articles de sport qui un temps était une filiale du groupe Kering. Elle détient la maison de vente aux enchères Christie, la fondation d'art contemporain Pinault Collection, le club de football Stade Rennais, la compagnie Ponant, spécialiste des croisières de luxe. Ce qui est amusant, c'est la diversité, effectivement, du truc.
Oui.
Et c'est ce qui m'a frappé dans l'article, c'est pour ça que j'en parle. L'élève de Bannière, Le Point, et plusieurs domaines viticoles, dont Château-Latour, premier grand cru classé. Artemis met la main sur l'une des agences d'artistes les plus puissantes au monde. Fondée en 1975, CAA, dont le siège est situé à Los Angeles, en Californie, dispose de bureaux à Londres, à Pékin, à Genève, à Munich, à Toronto, à Stockholm, entre autres. Elle gère la carrière d'artistes, de sportifs et de comédiens. Parmi eux figurent les chanteuses Britney Spears, Beyoncé, Ariana Grande ou le groupe Aerosmith, les acteurs Tom Hanks, Helen Mirren, Brad Pitt, Salma Hayek, épouse de François-Henri Pinault, PDG du groupe Kering. En 2022, CAA avait étendu son terrain de jeu lors du rachat d'ICM Partners, autre figure de l'industrie hollywoodienne, pour un montant de 750 millions de dollars, soit 700 millions d'euros, d'après les médias américains. Cette entreprise de services, dont l'activité ne nécessite guère d'investissement, génère un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,7 milliard de dollars. Et de fait, elle serait très rentable. Sa marge opérationnelle est de l'ordre de 30%, d'après les sources proches de la famille Pinault. Le montant de la transaction signée par Artemis et le fonds d'investissement TPG n'a pas été dévoilé. Mais plusieurs médias américains, dont l'agence d'information financière Bloomberg, avaient évoqué au cours de l'été une prise de participation propre à valoriser l'entreprise américaine à environ 7 milliards de dollars, tête comprise. Kering est un peu sous pression. En effet, CAA remplit toutes les caractéristiques pour faire partie de la famille Artemis, apportant à nos autres actifs une diversité accrue en termes de présence géographique et d'activité, a fait valoir François-Henri Pinault par communiqué jeudi 7 septembre. La holding développe son portefeuille outre-Atlantique et s'écarte des cycles économiques de l'industrie de l'équipement, de la personne et du luxe, indiquent les sources proches d'Artemis. Cette acquisition intervient alors que le groupe Kering, principal actif de la holding Artemis, est sous la pression de Bluebell Capital début 2023. Le fonds activiste est entré à son capital sous le seuil des 5%, alors que le groupe présentait déjà plusieurs signes de faiblesse. Rival de LVMH, numéro 1 mondial du secteur du luxe, ce rival donc est confronté aux contre-performances de Gucci, première de ses filiales. La marque italienne, qui a généré la moitié de son chiffre d'affaires mondial en 2022, c'est-à-dire 20,3 milliards d'euros, doit relancer ses ventes après l'essoufflement de son activité en 2021, 2022 et au cours du premier semestre 2023. Et lors de la prochaine Fashion Week de Milan, la marque italienne présentera le 22 septembre la première collection de prêt-à-porter féminin dessinée par son nouveau directeur artistique, Sabato De Sarno, nommé en janvier. À cette date, la marque accueillera un nouveau PDG, Jean-François Pallus. L'article est signé Juliette Garnier et ben, je trouve ça amusant. Et donc voilà, le modèle français. Messieurs les millionnaires, puisqu'il paraît que vous êtes très très nombreux depuis quelques années en France, prenez-en de la graine.
Oh là 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 là.
C'est drôle, non?
C'est colossal.
Ouais, c'est super parce que c'est très diversifié, c'est amusant même sur le... Et sinon, j'avais des choses sur les services publics, on a abordé un petit peu tout à l'heure, mais c'est difficile de résumer sans prendre trop de temps. Mais l'article m'a attiré parce que c'est un collectif transpartisan, dit le titre, qui s'appelle Nos services publics, qui livre un diagnostic sans appel dans un rapport. Alors en fait, j'ai regardé sur Internet et le collectif Nos services publics, je n'arrive pas à savoir qui est derrière précisément parce qu'ils ne citent pas de nom. Bon, j'aurais préféré savoir avant d'en parler. Mais ils écrivent quelque chose qui m'a beaucoup amusé parce que est complètement élémentaire. Débattre de l'évolution des services publics n'a de sens qu'au regard des évolutions sociales auxquelles ils répondent. Ah bah oui, ça c'est une bonne idée d'en parler. Et donc ils mettent en regard... Le fait que dans tous les domaines, on trouve une courbe des besoins qui augmente et une courbe des dépenses qui progresse beaucoup moins vite. Résume Arnaud Bontemps, magistrat financier, un des porte-parole du collectif. Le collectif a cumulé des indicateurs de nature très variable. Les dynamiques démographiques, vieillissement de la population, hausse d'accès aux études supérieures, etc. Je vous donne un exemple. Dans le chapitre santé, les rapporteurs étudient par exemple l'évolution des affections de longue durée comme les diabètes ou les cancers. Qu'est-ce qui se passe ?
C'est Henri qui fait ses réglages. Il est en train de faire des réglages, oui. Voilà.
J'arrête ?
Oui.
Il se rend compte qu'il fait son réglage ?
Non, non, il va... Voilà, oui.
Allô ?
Oui. Oui, tu peux reprendre, je pense. Oui, oui. Voilà, oui.
Tu crois ?
Oui, oui. Oui, oui, alors, oui.
Alors, il parle de l'évolution des affections de longue durée comme les diabètes ou les cancers dans la population.
Oui.
Maladie dans la maladie ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé et coûteux. D'après les données de l'assurance maladie, le nombre de patients en ALD est passé de 9 millions à 12 millions entre, donc de 9 à 12 millions, entre 2010 et 2020. C'est une hausse de 34%. Or, le financement du système de soins est de moins en moins adapté à ces pathologies. L'hôpital public, sur lequel repose en grande partie la prise en charge des maladies chroniques, souffre, selon le rapport, de la tarification à l'activité. Tout le monde a entendu parler, donc j'insiste pas. Les besoins ont également fortement évolué dans le domaine éducatif. Depuis les années 80, le taux de bacheliers pour une génération a été multiplié par 4. L'école accueille depuis 2005 les enfants en situation de handicap. Et face à ce phénomène de massification, l'école peine à s'adapter à un public plus hétérogène. Elle rémunère mal les accompagnants d'enfants en situation de handicap, professionnels qui manquent, comme les autres d'ailleurs. Et si 80% d'une classe d'âge parvient au baccalauréat, c'est au prix d'une stratification sociale très forte au sein des filières de lycée. Donc les rapporteurs notent du fait de l'inadaptation du système une persistance des inégalités. Pour la justice et la sécurité, ils notent un paradoxe. Malgré une décrue des faits de violence et l'augmentation des effectifs de police et de gendarmerie, le sentiment d'insécurité persiste. Dans l'enquête cadre de vie et sécurité 2021, citée par le rapport, 11% déclaraient se sentir en insécurité, tandis que 20% considéraient la délinquance comme leur préoccupation majeure. Mais la répartition des ressources est décorrélée des besoins exprimés. la lutte contre la drogue ou l'immigration irrégulière bénéficie de moyens considérables et en augmentation constante. En revanche, ceux consacrés à la lutte contre les violences familiales, les accidents mortels du travail, la délinquance économique et financière sont insuffisants au regard des besoins. Elle conclut, Madame Violaine Morin, qui écrit cet article que je trouve remarquable, elle conclut que, il faudrait que je me retrouve, elle conclut que l'écart entre les besoins et l'offre de services publics a plusieurs conséquences. Cet écart, donc. Avant tout, il libère un espace croissant pour le développement d'une offre privée lucrative